Le Coran, de la révélation au recueil. D'une part, Mohammed a reçu différentes révélations durant toute sa vie. De l'autre, le Coran, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un recueil organisé de toutes ces révélations. Comment est-on passé de la transmission orale des révélations faites à un seul homme à un livre complet et organisé? Quand cela s'est-il produit? Sur la base de quels principes les sourates ont-elles été compilées? Y a-t-il fondamentalement une seule tradition qui a figé le texte des révélations de Mohammed contenu dans le Coran, ou y a-t-il eu des évolutions au fil du temps? Le texte écrit qui se trouve dans tous les Corans aujourd'hui était à l'origine un texte composé uniquement de consonnes, sans mention de voyelles. L'alphabet arabe, à ce moment-là, avait seulement 15 caractères pour 28 consonnes. Plus tard, des signes spéciaux ont été ajoutés pour distinguer les lettres qui se ressemblent ou sont identiques en arabe. En raison de l'absence de voyelles écrites et de la confusion possible des consonnes, personne ne pourrait lire une copie ancienne du Coran sans l'avoir déjà entendu réciter à l'oral. Quand en 1924, les théologiens égyptiens préparaient ce qui est devenu l'édition imprimée officielle du Coran, ils ont d'abord consulté la tradition orale vivante. Le texte originel qui a servi de trame au Coran, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était divisé en lignes, mais sans indication de versets, les ayats. Dans la plupart des cas, les considérations stylistiques permettent de clarifier l'endroit où se termine un verset. Cependant, dans certains cas, la césure n'est pas complètement claire. La scission en verset que nous connaissons aujourd'hui est celle qui a été élaborée par les théologiens égyptiens en 1924. Les textes imprimés ou manuscrits traditionnels indiquent la fin d'un verset par une rosette insérée dans le texte entre les versets. Certaines traductions occidentales adoptent une répartition des versets élaborée par un certain Flügel au XIXe siècle qui diffèrent en certains endroits de 7 versets par rapport à l'édition égyptienne. Si vous recherchez une citation dans une traduction en français du Coran et que vous ne trouvez pas le passage indiqué, lisez les 7 versets suivants ou précédents. Le premier texte, uniquement à base de consonnes, se prêtait à des lectures comportant des variations mineures. Imaginez que vous écriviez « garde » avec uniquement des consonnes, « G-R-D ». Vous pourriez interpréter ce mot comme étant « garde »,« gourde », »,« grade », et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, certains journaux et livres arabes et hébreux sont imprimés sans voyelles. Le contexte permet habituellement de clarifier les ambiguïtés de lecture dans le Coran. Cependant, il existe des cas où différentes lectures étaient pareillement possibles. Différentes traditions orales se sont développées quant à la façon correcte de lire le texte, ce qui, en d'autres termes, revient à compléter le texte avec des voyelles et des accents. Avec le temps, une version plus complète du manuscrit arabe a été élaborée, les voyelles et les accents étant mentionnés à l'aide de signes inscrits au-dessus et au-dessous des consonnes qui font le texte originel du Coran. Il ne faut pas oublier que seules les consonnes sont considérées par les musulmans comme éléments du texte révélé. Pour aller plus loin, on peut donner un exemple qui illustre bien ce propos. La sourate 1.4 emploie l'expression « le maître du jugement dernier ». La racine consonantique du mot « maître » est « mlk ». Si vous prononcez ce groupe de consonnes en disant « maliki » avec un « a » long, cela signifie « maître ». Si vous la prononcez ou la lisez avec un « a » bref, « maliki », le sens devient celui de « roi ». Comment a-t-on agencé ensemble les sourates pour former le Coran? Si vous feuilletez un Coran, vous verrez qu'après la première sourate, on trouve d'abord les sourates les plus longues. En règle générale, les sourates sont rangées selon un ordre décroissant. Cependant, il y a beaucoup d'exceptions à cette règle. Par exemple, si l'on se réfère uniquement à la longueur des sourates, la sourate 15 devrait être placée là où se trouve la sourate 40, et la sourate 40 devrait être la sourate 12. La longueur n'est donc pas le seul critère de classement. 29 sourates sont agrémentées de lettres dites « mystérieuses », de 1 à 4 lettres vagabondes selon les cas. Lettres qui sont placées après la basmala et juste avant le corps du texte de la sourate. Les musulmans leur accordent un respect tout particulier, car ils les considèrent comme des éléments de la révélation originelle. Dans certains cas, les sourates portant les mêmes lettres mystérieuses sont regroupées ensemble. Par exemple, les lettres A, c'est-à-dire la lettre Alif, L et R, figurent au début des sourates 10 à 15. Cela explique peut-être pourquoi certaines sourates semblent ne pas être à leur place, si l'on s'en tient au seul critère de la longueur. Quelle est la signification de ces lettres? Il n'y a pas d'unanimité là-dessus. C'est pourquoi elles sont qualifiées de mystérieuses. Selon la biographie traditionnelle, Mohammed a reçu son appel à devenir prophète en 610. À cette occasion, développée au chapitre 6, l'ange Gabriel a transmis à Mohammed la première révélation, habituellement considérée comme étant les versets d'ouverture de la sourate 86. Le Coran dit « Nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie » sourate 44, 3. Quand Dieu emploie l'expression « faire descendre », il faut comprendre qu'il a fait descendre le Coran tout entier, du septième ciel au plus bas niveau, pendant une nuit impaire du dernier tiers du mois de Ramadan. Pendant tout le restant de sa vie, Mohammed a continué à recevoir différentes révélations. Il n'y a que quelques sourates courtes qui correspondent intégralement à une révélation reçue en une fois. Pour les autres, les différentes révélations ont été combinées ensemble pour former les sourates. Certains musulmans disent que toutes les fois que Mohammed a reçu une nouvelle révélation, il a indiqué à quel endroit elle devait être placée, c'est-à-dire dans quelle sourate, et quel était l'ordre approprié pour les sourates. Bien que le Coran n'ait pas existé en tant que livre constitué pendant la vie de Mohammed, cette vision des choses impliquerait que Mohammed ait déjà déterminé la structure globale du Coran. Une édition de poche du Coran en français, le Coran traduit par Kazimirski chez Garnier Flammarion en 1970, comporte plus de 500 pages. Une autre, celle de Grosjean, est de la même importance. Enfin, il existe une traduction du Coran dans la Pléiade, collection de prestige des éditions Gallimard. Si l'on divise ce chiffre de 500 pages par le nombre d'années pendant lesquelles Mohammed a reçu ses révélations, 23 années, on arrive à 2 pages par mois ou 25 pages par an. Si l'on se réfère au nombre de versets que comporte le Coran, plus de 6200 versets, on obtient le chiffre d'un verset par jour. Naturellement, les révélations ne sont pas venues à un rythme aussi régulier et n'ont pas toutes la même longueur. Texte sacré. Voici un récapitulatif des différentes traditions qui nous livrent la vision musulmane de la façon dont les révélations ont été rassemblées en un seul livre, qui constitue la version officielle intégrale du Coran. Dans les 2 premières années qui ont suivi la mort de Mohammed en 632, Omar, le futur deuxième calife, a insisté auprès d'Abou Bakr, le premier calife, pour que l'on procède à une recension du Coran afin d'éviter le risque de perte du contenu de la révélation au cas où toutes les personnes capables de les réciter viendraient à périr au combat. Abou Bakr fit venir Zayd ibn Thabit. Zayd a recherché toutes les versions écrites existantes des différentes révélations, certaines écrites sur la pierre, d'autres sur des feuilles de palmier et d'autres sur des os. Il a également rassemblé et mis par écrit les passages du Coran qui avaient été conservés uniquement dans le cœur des hommes. Zayd a remis le fruit de son travail, qui consistait en une multitude de pages séparées, à Abou Bakr, qui à sa mort les a transmises à Omar. Omar, à son tour, les a confiés à sa mort à sa fille Hafsa, une veuve de Mohammed. Il s'agit là, selon la tradition, de la première recension complète et manuscrite du Coran. Pendant le règne d'Othman, le troisième calife, un général d'armée du nom de Hudaïfa est venu trouver Othman. Il était perturbé par le fait que ces hommes n'avaient pas forcément tous la même version du Coran. Othman fit demander à Hafsa tous les feuillets qui étaient en sa possession. Il confia au même Zaïd ibn Thabit la responsabilité de former un comité chargé d'élaborer un livre regroupant les feuillets validés afin d'harmoniser le contenu de la révélation. Othman envoya des copies de ce Coran aux quatre grandes villes de l'islam. Il ordonna que l'on brûle toutes les autres copies écrites du Coran, entier ou partiel. Nous étions alors en 650, un siècle avant la conquête de l'Andalousie. Que dire de ce récit traditionnel qui est fait de la recension du Coran ? Ce récit a clairement pour but de légitimer la version othmanienne du Coran, qui est celle qui fait autorité dans tout le monde musulman. Indépendamment du fait de savoir si ce récit a une valeur historique fiable, il est clair que c'est le texte du Coran qui est utilisé aujourd'hui et qui est désigné sous le nom de Vulgate d'Othman. Ce récit indique que même après Abou Bakr, à l'époque d'Othman, plusieurs versions du Coran circulaient. À la mort de Mohammed, le Coran n'était pas encore un seul et même texte manuscrit. L'établissement du texte coranique a été beaucoup plus rapide que l'établissement des textes bibliques. Dans quelle mesure le texte actuel du Coran est-il complet ? À part certains chiites musulmans qui pensent que le texte officiel du Coran omet certains passages parlant de Ali et de ses descendants, la plupart des musulmans conviennent que le texte actuel du Coran contient la majeure partie des révélations que Mohammed a reçues pendant sa vie. La tradition rapporte que l'établissement du texte a suivi les principes suivants. La révélation a été mise par écrit en présence de Mohammed. En d'autres termes, aucun récit de deuxième main n'y a été inclus. Pour être validé, chaque révélation doit avoir été entendue de la bouche du prophète Mohammed par au moins deux témoins. Toutes les révélations que Mohammed a reçues ont été incluses. Rien n'a été omis, excepté quelques passages que Dieu a explicitement annulés. Écoutez la section « Les versets abrogés » dans ce chapitre. Ce récit traditionnel de l'élaboration de la Vulgate coranique par Othman n'est pas remis en cause par les historiens occidentaux non musulmans. Là où ils divergent un peu de la vision musulmane de l'histoire, c'est qu'ils mettent en avant le fait que d'autres versions ont continué à circuler pendant plusieurs centaines d'années, comme le montrent les faits suivants. Les commentateurs du Coran et les juristes citent parfois des versions non othmaniennes du Coran, plusieurs siècles après Othman. La tradition musulmane elle-même se rapporte au moins à quatre autres versions antérieures du Coran. Selon la tradition musulmane, Othman a détruit ces versions, mais on a retrouvé des textes datant des années 800 déplorant l'usage de la version coranique de Ibn Masoud, au 7e siècle, l'un des proches compagnons du prophète, ce qui induit que cette version, en tout cas, était toujours en circulation. Les textes les plus anciens du Coran, en tout ou partie, que l'on connaisse, remontent à la fin du 7e et du 8e siècle. On trouve la mention du grand sanctuaire du Dôme du Rocher à Jérusalem dans des textes qui datent de 691-692, comportant quelques versets de Coran. En 1972, un certain nombre de manuscrits anciens contenant des extraits du Coran ont été découverts au Yémen. Ces manuscrits, qui datent probablement du 8e siècle, voire un peu plus tôt, présentent dans certains passages de très légères différences par rapport à la Vulgate othmanienne. Dans les textes yéménites, certains mots sont écrits différemment, et quelques fragments qui contiennent la fin d'une sourate et le début d'une autre laissent penser que dans certains cas, l'ordre des sourates pouvait être différent de celui de la Vulgate d'Othman. En général, ce genre de considération est mal reçu ou mal vu par les musulmans, qui sont choqués à l'idée même que l'on puisse effectuer ce type de recherches historiques et prennent cela pour une attaque de l'Occident contre l'islam. Pour les musulmans, le Coran est une copie conforme du livre céleste. Les chercheurs ne voient pourtant pas les choses de cette façon. Ce qui les frappe n'est pas tant le fait qu'il existe des variantes au texte du Coran, mais que celles-ci soient particulièrement peu nombreuses par comparaison avec les différents spécimens de Bibles judaïques et chrétiennes. Ce qui les étonne, ce n'est pas que le texte n'ait pas été fixé à l'époque de Mohammed, mais plutôt qu'il ait été fixé sous forme écrite aussi rapidement, 19 ans seulement après la mort du prophète, et transmis tel quel depuis lors, ce qui ne fut pas le cas de la Bible. Dans le chapitre 2, je mentionne l'approche radicale de l'histoire musulmane faite par Krohn, Cook et Wansbrough. Wansbrough a centré ses recherches sur le Coran et son histoire en utilisant les outils d'analyse développés pour les études bibliques modernes. Krohn et Cook aboutissent à une reconstruction des origines de l'islam radicalement en désaccord avec la vision traditionnelle musulmane. Ainsi, l'émigration originelle, Hijra, est présentée comme allant non de la Mecque à Médine, mais de l'Arabie à Jérusalem. Il ne s'agit là que d'une anecdote à replacer dans le contexte global de la reconstruction des origines qu'ils opèrent. Dans cette vision radicale, le Coran aurait été élaboré au 8e siècle, à l'époque où la nouvelle religion commençait à bien s'implanter et que le besoin se faisait sentir d'inscrire sans tarder la nouvelle foi dans une histoire du salut, une histoire sacrée qui prenne en compte à la fois l'aspect spirituel et l'aspect temporel. Dans cette perspective, le Coran, constitué de matériaux issus de périodes et de sources différentes, fournit des informations sur le 8e siècle, mais peu sur la période des origines de l'islam. Selon Wansbrough, la raison de ce manque de matériaux au tout début de l'islam tient au fait qu'avant la construction du dôme du rocher, environ 691, le Coran n'existait pas encore en tant que tel. Pour aller plus loin, on peut aisément comprendre que cette façon de voir dérange beaucoup les musulmans qui ne sont ni chercheurs ni spécialistes. Vous trouverez des détails passionnants sur le Coran dans plusieurs ouvrages français récents ou anciens. En voici un petit nombre significatif. Jacques Berck, Relire le Coran, Albin Michel, 1993. Franz Boll, Al-Koran, dans l'Encyclopédie de l'Islam, Bril, Maisonneuve et La Rose, que vous trouverez dans plusieurs grandes bibliothèques françaises. Et Jacques Jaumier, Le commentaire coranique du Manard, Paris, Maisonneuve, 1954.